De la BCE a déclaré que la Banque Centrale Européenne annoncerait des mesures de soutien fortes en décembre. Du côté des entreprises à Paris, les valeurs défensives ont dans ce contexte retrouvé de l'intérêt pour les investisseurs. Neoen dans les énergies renouvelables s'est octroyé 4,4%. Iliad, la maison mère de Free, a gagné 2,2% à l'annonce d'un bon troisième trimestre, mais Vallourec a chuté de 10% en réaction à de nouvelles pertes trimestrielles. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RFI.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, RFI. Il est maintenant 18h10 à Paris, 17h10 en temps universel.
Radio G. 101.5 FM.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Qui êtes derrière votre poste de radio, par hasard ou par choix, vous êtes désormais à l'écoute de l'Oreille Curieuse. Une émission qui vous parle de découvertes, d'idées, d'infos locales et culturelles, et ce, du lundi au jeudi sur Radio G. Dans cette émission, nous avons nos petites habitudes et vous avez vos rendez-vous. Aujourd'hui, jeudi, nous retrouverons le légendaire Benoît pour la chronique Science, Nature et Environnement. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour découvrir la sélection d'infos qu'il a choisie pour nous. Vous entendrez également un nouvel épisode de la série de reportages sur le dispositif du service civique, des reportages que nous réalisons avec Radio G et les autres radios associatives des Pays de la Loire. Vous entendrez également Céleste qui revient dans sa chronique bientôt légendaire cinéma. Ce soir, il s'agit d'un portrait, une jeune fille, du feu. Vous voyez forcément de quel film je parle et Céleste nous parlera. Depuis le studio, c'est Annelie qui parle dans le micro et le dicton que je vous offre ce soir est toujours valable et sans doute pour toujours. Il s'agit de « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Bien sûr, pour commencer cette émission, on va le faire en musique avec un groupe local, un groupe d'Angers. Il s'agit de Dogs for Friends. On les aime beaucoup à Radio G et ils ont sorti un nouvel EP la semaine dernière, vendredi 13. On espère que ça leur portera chance. Ce nouvel EP s'intitule « I'll Pet You Forever ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Ce qui est aussi important, c'est de dire que les Dogs for Friends ont été filmés par l'Université d'Angers, qui propose une série de concerts. Alors des concerts filmés, on pourra pas y aller en ce moment. Et ce concert sera visible à partir de demain. Il sera en ligne et vous pourrez les voir sur scène avec leur énergie. On débute avec les Dogs for Friends et on écoute Sorry I Quit. When I blow my wings
It's the way I crave.
J'espère que les Dogo Friendo, les Dogs for Friends vous ont autant donné envie de danser que moi. Et maintenant, dans l'oreille curieuse, on va parler de cinéma avec Céleste.
Il est de ces films qui définissent un genre. Par exemple, si je vous dis film d'horreur, vous pensez immédiatement à Halloween, Vendredi 13, Shining ou Alien. Si je vous dis film d'aventure, vous pensez Indiana Jones, Les Goonies ou Lawrence d'Arabie. Alors je vous l'accorde, ces films ne sont pas tout jeunes. Le plus récent étant Les Goonies et il date quand même de 1985. Et ce sont des genres qui sont implantés dans le cinéma depuis assez longtemps. Mais qu'en est-il des genres en évolution avec leur temps? Par exemple, les drames romantiques, incluant de plus en plus les personnes LGBTIA+, qui pour rappel est le sigle pour lesbienne, gay, bi, trans, intersexe et asexuel aromantique. Bonjour, je m'appelle Céleste, et aujourd'hui je vais vous parler de Portrait de la jeune fille en feu, réalisé par Céline Sciamma, et sorti en 2019. Ça faisait plusieurs mois que je voulais regarder ce film, en réalité depuis sa sortie, quand tout le monde en parlait. Alors il y a quelques jours, j'ai trouvé l'excuse de la chronique pour enfin poser mon regard dessus. Et quelle claque! Bon ok, le film a été dans la sélection officielle du Festival de Cannes, et il a gagné le prix du meilleur scénario, la Queer Palm, et le César de la meilleure photographie, donc c'est normal qu'il soit qualitatif. Tout comme la Palme d'Or de la même année, Parasite, qui est génial. Mais le fait que le long métrage soit français peut rebuter au premier abord, parce que le cinéma français a souvent une mauvaise réputation. Alors que les bons films français sont légion, je vous l'ai déjà dit, quand on sait où chercher. C'est justement ici le cas avec Portrait de la jeune fille en feu, qui possède un casting en très grande forme. Noémie Merlant et Adèle Haenel sont juste époustouflantes dans leur rôle, tout comme Luana Barjamy jouant la servante. Mais de quoi parle ce film? Eh bien, il raconte l'histoire de Marianne, incarnée par Noémie Merlant, jeune peintre du début du 18e, engagée par une comtesse qui lui demande de peindre le portrait de sa fille Héloïse, celle-ci jouée par Adèle Haenel. Héloïse est fiancée à un noble milanais, mais cette dernière ne veut pas poser pour se faire peindre, car elle ne veut pas partir à Milan pour se marier. En effet, ce portrait marquera son départ pour ce mariage. Marianne est donc introduite comme dame de compagnie à Héloïse et devra réaliser ce portrait en secret. Le départ de la mère pendant quelques jours va faire entrer l'une dans l'intimité de l'autre. Les historiens diraient qu'elles étaient de très bonnes amies. La première chose que l'on remarque au premier visionnage, au-delà de « Ah, c'est pas une romance classique hétéro, c'est trop bien !» c'est également un film profondément féministe. Le casting n'est composé que de femmes, pratiquement, à part une à deux apparitions masculines au début et à la fin du film, et ça change. C'est aussi le cas pour l'équipe technique qui est en grande majorité composée de femmes aussi, ce qui est beaucoup trop rare pour le souligner, qui est expliqué par le fait que la réalisatrice Céline Sciamma est engagée dans une démarche de parité dans le cinéma, avec le collectif 50-50. Et là où certains cinéastes ont un regard lubrique sur leurs actrices, ici le cadre ne sexualise pas les personnages. C'est dont Iris Bray parle dans son essai « Le regard féminin », de la différence entre un regard masculin, sexualisant et au profit du spectateur mâle, et un regard féminin du coup qui sera plus naturel, vu à travers les yeux d'une femme. Car des femmes, il n'y a pratiquement que ça dans le film. Alors attention, je parle évidemment de féminin et masculin comme des constructions sociales et non comme des réalités biologiques. C'est-à-dire qu'on ne naît pas comme ça, on le devient. Et ça se voit dans les cadrages choisis par la réalisatrice et sa directrice de photographie. Le cadre d'ailleurs, parlons-en. La réalisation est vraiment somptueuse. Chaque plan est travaillé, pensé, rempli de lignes fictives ou non. La réalisatrice se pose en tant que peintre, construisant son film méticuleusement. Cela va de certains plans comprenant une symétrie symbolique, comme le plan où Marianne est assise entre deux toiles en train de sécher, montrant qu'elle est au centre de son art qui constitue sa vie. À d'autres plans, brisant le champ contre champ classique. Sophie, la servante, par exemple, expliquant la situation à Marianne en étant face caméra, comme si elle faisait l'exposition aussi bien à la jeune fille qu'au spectateur. Ce cadre réfléchi et composé que l'on doit à Claire Maton, qui a travaillé sur plusieurs films de Maïwenn, dont Police, a d'ailleurs été récompensé d'un César en 2020 pour Portrait de la jeune fille en feu. Et ça ne s'arrête pas là. La tension amoureuse slash sexuelle entre Marianne et Héloïse, qui est marquée par les plans serrés entre les deux femmes, qui remplissent totalement le cadre, montrant leur intimité. La symbolique continue, grâce aux lignes construites par la réalisatrice, qui permet de diriger le regard du spectateur, mais aussi qui place dans le cadre d'un contre-champ un personnage ou un objet au centre de la vision de l'autre, comme une scène sur la plage où Héloïse est au centre du cadre, du regard de Marianne, et donc de ses pensées. Les lignes sont là grâce au sable, à la mer, à l'horizon qui se profile. On les retrouve aussi dans l'architecture du château où vit Héloïse, avec les différentes haies à l'extérieur ou au mobilier à l'intérieur. Et c'est grâce à ces subtilités que Céline Sciamma construit la romance entre les deux jeunes femmes, en jouant sur le silence, le cadre et le rythme des plans. La solitude causée par le huis clos, les deux femmes sont dans un château retiré du monde social, ce qui permet leur rapprochement, d'autant plus que le film ne contient presque aucune musique, mais son absence renforce la solitude des personnages, et aussi inscrit l'action que l'on voit dans le réel, parce que lorsque nous vivons, la seule musique que nous entendons, c'est celle qu'il y a autour de nous. Et c'est aussi le cas pour les personnages. Les deux seules musiques sont un chant entonné par les femmes du village lors d'une soirée autour du feu. Attention, pour les gens nés pendant le confinement, une soirée, c'est quand on se réunit le soir avec d'autres gens qui n'habitent pas chez nous. La deuxième musique entendue est l'été de Vivaldi. D'abord jouée par Marianne pour montrer à Louise ce qu'est la musique. On parle des années 1700, bien sûr, les vinyles et Spotify, ça n'existe pas à l'époque. Cette musique, l'été de Vivaldi, est au centre de leur union. Et c'est pour ça qu'elle est réentendue à la fin et que j'ai choisi pour introduire cette chronique. La quasi-absence d'hommes est un point important aussi. Au début, Marianne est sur une barque conduite par des hommes, silencieux, qu'on ne verra qu'à la fin du film. C'est une toile de fond. C'est marrant de parler de toile quand on parle de cinéma à partir d'une peinture, d'un peintre. Et aussi, pour exercer son métier d'artiste, elle doit utiliser le nom de son père pour pouvoir être exposée dans des galeries prestigieuses. On rappelle qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits et donc étaient souvent discriminées. Héloïse, en revanche, a plus les hommes comme obstacle, le plus évident étant son futur mari dont le mariage l'empêche d'être libre. Tout comme l'arrivée d'un homme à la fin qui la sépare définitivement de Marianne. Attention, je ne suis pas là en train de divulgâcher le film, puisque cette fin est la seule possible. Cette volonté de n'avoir presque que des femmes au casting est aussi expliquée par la réalisatrice, qui voulait parler surtout des femmes, des artistes dont on ne parle pas assez, toujours effacées par des hommes. Céline Sciamma a voulu lever cette invisibilisation de son film, ainsi que celle des romances lesbiennes de l'époque qui ont été malheureusement effacées par l'histoire et les gens. Et si tout fonctionne, c'est aussi parce que la réalisatrice est une femme lesbienne, qui n'en est pas à sa première réalisation, puisque son premier film, Naissance des pieuvres, contenait aussi les personnages non hétéros. D'ailleurs, ses autres productions, excepté Bande de filles qui parlent plus de l'identité, contient des thématiques liées au genre et à la sexualité non liées à l'hétéronormativité. Et c'est son regard, son travail et son vécu différent d'une personne hétérosexuelle qui apporte de l'authenticité au récit. Je vais oser la comparaison avec un autre long métrage que je déteste, La vie d'Adèle, réalisé par Abdelatif Kechiche, qui lui pour le coup est un homme hétérosexuel. Et ça se ressent, ne serait-ce que dans la réalisation qui fétichise plus les personnages féminins, surtout des personnages lesbiens, là où les scènes de portrait d'une jeune fille en feu offrent des scènes plus réalistes. Dans La vie d'Adèle, les échanges sont caricaturaux au possible, et quand je parle d'échanges, je parle bien sûr de la romance entre les deux filles, allant jusqu'à des scènes de sexe qui sont à la limite du pornographique dans la réalisation. On se demande même si les films pornographiques à destination des cis mecs hétéros ne constituent pas la seule documentation du réalisateur. Tout est un point de vue de fantasme hétéro, et je ne veux plus jamais voir ça. Que conclure alors de ce film ? Céline Sciamma, qui prend de plus en plus de place dans le cinéma français, nous offre un drame romantique, poétique et magnifique, et ça fait 1€ dans le bocal aux assonances, traitant l'amour lesbien comme n'importe quelle romance. Ça aurait pu être un couple hétéro, ça aurait été pareil, quoique bien plus banal et moins intéressant. Et c'est ça qui est plaisant dans ce genre de film. Voir un couple de femmes comme un fait normal, comme tout autre couple, car c'est ce genre de représentation qui fera peut-être changer certaines mentalités. D'autant plus que le paysage audiovisuel, qui plus est français, manque cruellement de personnages LGBTIA+. Autre que personnages fonction, j'entends, je parle de personnages principaux. Et ça empêche une visibilité de ces personnes qui existent dans la société, il faut vous y faire. Portrait d'une jeune fille en feu a eu un succès relatif en France, totalisant un peu plus de 303 000 entrées, mais a su fédérer une grande communauté de fans, surtout dû à son contenu lesbien, dans le monde entier. Où naissent des dessins rendant hommage au film, appelé fanart, certaines personnes se sont fait même tatouer des répliques du long métrage. Et là où j'ai le plus entendu parler de ce film est sur le réseau social TikTok, qui m'a donné envie de voir ce film. Il est bien sûr disponible en DVD et en Blu-ray chez Pyramide ou en VOD vidéo à la demande. C'est la première fois que je parle d'un film de façon aussi détaillée juste après son visionnage. J'ai d'ailleurs pris plein de notes pendant le métrage, j'avais l'impression d'être journaliste. J'espère que ça vous a plu. C'est ainsi que s'achève ma quatrième chronique ici. Chacune vous a présenté un bout de mon univers. Le cinéma, la musique, les blockbusters et maintenant les films LGBTIA+. La prochaine chronique sera sûrement dans la même volonté, vous parler de cinéma tout en parlant de ce qui constitue mon univers. Merci de m'avoir écouté. Voyez des films, intéressez-vous à leur histoire et portez-vous bien. Salut!
Merci beaucoup Céleste. Évidemment, on vous invite à voir Portrait de la jeune fille en feu. À l'instant, nous écoutions le deuxième morceau de la bande originale du film, car il n'y a donc que deux morceaux dans cette BO. C'était Fuggere non possum, composé par Parawan et Arthur Simonini. Alors c'est du latin, vous l'avez peut-être compris, une langue qu'on adore parler chaque jour. Et cela signifie « je ne peux pas fuir loin ». Voilà pour la curiosité et les infos. Pour l'heure, vous êtes dans votre émission Refuge, l'oreille curieuse sur Radio G. Et on retrouve maintenant la série de reportages sur le dispositif du service civique. Aujourd'hui, direction Nantes. Emmanuel Giboulot, ou Giboulot, directeur du cinéma associatif Le Cinématographe, avoue avoir été longtemps réticent face au dispositif du service civique. Au micro de Jet FM, il nous explique quelles étaient ses raisons.
S'engager de 6 à 12 mois dans un projet collectif d'intérêt général, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans, pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Quels constats du côté des structures accueillantes? Quels atouts et quels freins? Volontaires en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Accueillir une personne pour une mission de service civique, c'est presque chose faite pour le cinématographe, une salle de cinéma associative du centre-ville de Nantes et structure d'éducation à l'image. Après pas mal d'hésitations, le cinématographe va donc avoir recours à ce dispositif. Emmanuel Giboulot, directeur, nous explique pourquoi.
On a décidé très récemment, plutôt récemment, de demander l'agrément pour pouvoir accueillir un premier service civique, normalement en janvier. Alors, le service civique, au départ, à la mise en place de ces statuts, on était, pour être tout à fait honnête, un peu méfiant, voire beaucoup en fait, en se disant assez basiquement est-ce que c'est pas quelque chose qui sert juste à faire baisser les chiffres du chômage, travail déguisé, etc. On était méfiant voire réticent, et puis au fur et à mesure du temps, en discutant avec certains collègues dans d'autres assos, on a pu se rendre compte que il y a aussi ce que j'appellerais des vrais services civiques qui ont une mission dédiée au sein des associations pour développer autre chose. Justement, c'est pas un poste, donc on veut pas faire une fiche de poste. On veut vraiment accueillir voilà un service civique. Donc ça va dépendre de son profil, de son parcours, de ses envies. On adaptera les missions au profil de la personne qu'on accueillera. Alors pour l'accueil de cette personne en service civique, on pense déjà aménager un espace de travail. C'est une vraie question chez nous, puisqu'on est un tout petit peu à l'étroit dans nos locaux. Donc il s'agit d'aménager un vrai espace. Là, on ne reçoit pas un stagiaire pendant un mois, c'est quelqu'un qu'on reçoit de 6 à 12 mois. Donc il faut vraiment un endroit à lui ou à elle pour pouvoir travailler. Donc voilà, ça c'est les conditions de travail. Et puis après, mais c'est tout ce qui est, c'est encore un peu flou hein, évidemment, mais c'est tout ce qui est l'aspect formation, dégager du temps de formation, enfin c'est tout ce qui est dans les missions d'accueil d'un service civique. Quoi. À l'heure où on parle, on a rencontré quelqu'un, en fait, qui est un jeune qui vient de Bretagne, qui a fait des études de cinéma, qui les a un peu abandonnées, mais qui a envie de s'investir dans le monde associatif, qui commence tout juste à connaître et qui va être néo-nantais, en fait, qui s'installe à Nantes avec l'envie de s'investir dans le milieu culturel nantais, dans le milieu associatif nantais. Donc il a un apprentissage de ce milieu-là, d'éducation populaire à faire, et puis un apprentissage aussi de territoire à faire. Donc c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça évite une crainte qu'on pourrait avoir parfois sur des gens qui habitent ici, qui peuvent avoir des présupposés sur tel ou tel quartier. Là, on a un regard vierge, si ce n'est la vitrine que peut renvoyer Nantes à l'extérieur, mais ça, il se rendra vite compte que la réalité, c'est autre chose. Et voilà, ça nous plaît bien, ce regard vierge, et puis cette envie de ces terrains vierges, et vraiment de partir de rien pour découvrir à la fois la ville et à la fois le fonctionnement associatif en général.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire. Thank you.
Il est 18h35 sur Radio G et dans l'oreille curieuse. Et vous reconnaissez sans doute ce générique d'une chronique. Un rendez-vous important, je le mets pour le plaisir. Et moi, je vois notre chroniqueur préféré du jeudi. Bon, je peux pas dire ça, parce que j'aime tous mes chroniqueurs et mes chroniqueuses. Je le vois tout pixelisé. Salut Benoît.
Salut Ali.
Je suis ravie de te retrouver en direct pour la chronique Science, Nature et Environnement, donc.
Eh bien, moi aussi, avec une nouveauté ce soir, parce que c'est une chronique à distance et en direct. Donc, comme tu dis, c'est vraiment pas mal.
On innove grâce à la science.
Tout à fait, c'est ça. On innove grâce à la science et à la technique. Mais la science et la technique, il faut parfois aussi s'en méfier. C'est l'objet de la chronique de ce soir.
Allez, alors qu'est-ce que tu as apporté comme sujet ce soir ?
Alors, je vais vous raconter une histoire ce soir. Donc ça, c'est assez long, ça va durer plus de 5 minutes, mais c'est une histoire tout à fait intéressante et qui donne un peu à comprendre ce qu'est la science et quel regard critique on peut avoir sur la science. Donc, on va parler donc des doutes et des preuves en matière de science. Donc l'histoire que je vais raconter est à mettre en relation avec une actualité chaude, donc qui hélas fait la part belle aux fausses informations, théories du complot, fake news, etc.
Il y a énormément de théories du complot en ce moment.
C'est un peu fou d'ailleurs, c'est complètement hallucinant. Mais bon, bref. Alors, moi j'apporte ma petite pierre à l'édifice en vous racontant cette histoire. Donc je vais une fois de plus tenter de vous expliquer comment la science fonctionne et pourquoi le doute est son moteur. Alors je parle bien ici du doute scientifique, hein, évidemment. C'est pas le doute des complotistes, bien entendu. Donc au tout départ, je voulais simplement vous raconter une histoire de découverte scientifique qui est tout à fait intéressante. Donc c'est l'histoire du coudou et de l'acacia. Donc c'est une histoire connue, hein, qui a été largement diffusée dans les médias, les ouvrages de vulgarisation depuis la fin des années 80 en fait. Et quand j'ai commencé à me documenter un peu sur le sujet, j'ai lu un article tout à fait intéressant d'Adrien Delattre, donc qui m'a permis d'ajouter un volet, ce volet critique un peu sur la science. Donc c'est le plus pertinent, hein, de la chronique, et c'est devenu l'objet de la chronique de ce soir. Donc je vous informe que vous pouvez trouver l'article complet d'Adrien Delattre sur le site de Tela Botanica. Alors, voici l'histoire, hein, telle que sans doute elle est connue par de nombreux auditeurs de la radio et d'ailleurs. Donc, au début des années 80, en Afrique du Sud, des éleveurs d'antilopes de l'espèce Tragelaphus strepsicerans, hein, donc en français on l'appelle le grand coudou, donc ces éleveurs ont perdu leur troupeau alors que les animaux étaient dans des champs clôturés, mais dans leur milieu de vie naturel, donc dans la savane. Donc il n'y avait pas de traces de prédation, ni de maladie, pas non plus d'amaigrissement anormal des animaux. Bon, alors les gens ont fait des analyses, hein, donc pour découvrir que les herbivores avaient été intoxiqués en fait par leur nourriture. Donc leur système digestif recelait de grandes quantités de tanins, les tanins produits par les acacias qui sont poisons à haute dose. Donc rapidement, l'explication suivante fut diffusée. Donc en se nourrissant des feuilles d'acacia, les herbivores provoquent un stress chez l'arbre qui sécrète alors des tanins qui sont diffusés dans tout son organisme et notamment dans les feuilles. Donc à ce moment, les coudous, il leur suffit de changer d'arbre pour manger des feuilles où la concentration en tanins est supportable.
Ouais, un arbre moins stressé, quoi.
Un arbre moins stressé. Mais les arbres voisins sont aussi toxiques avant même le stress imposé par l'action de l'animal sur les feuilles. Alors, le premier arbre stressé aurait communiqué son stress au second par l'envoi de molécules volatiles, induisant chez lui une forte concentration en tanins. Donc, ainsi, rapidement, tous les arbres de l'enclos, alors c'était des grands enclos, hein, immenses, hein, il y avait des centaines d'animaux, tous les arbres de l'enclos se mirent en mode poison, à produire des tanins, et les coudous, ils sont tous morts intoxiqués parce que il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas d'autres nourritures disponibles à cause de l'enclos. Donc, la molécule volatile incriminée, hein, qui porte cette communication là, d'arbre en arbre, elle fut décrite rapidement. Il s'agit de l'éthylène, une hormone végétale qui est bien connue des botanistes. Donc, ça, c'est l'histoire. Donc, cette histoire, elle a connu un succès mondial, racontée de cette façon, qui a été largement diffusée par les botanistes, qui voyaient là, enfin, une preuve de communication à distance entre individus d'une même espèce d'arbre. Donc, on peut citer parmi les personnalités qui ont raconté cette histoire Jean-Marie Pelt ou encore Francis Allais, dont les renommées apportaient en plus du crédit à l'anecdote. Évidemment, on ne pense pas remettre en cause ce genre d'information quand on l'entend à la radio, dite par ces personnes, ou quand on la lit dans les journaux ou dans les magazines. Donc, c'est aussi une belle occasion de redorer l'image des végétaux aux yeux du grand public. Donc, quand on parle de la nature, on parle beaucoup plus souvent des animaux, la protection des animaux, etc. Donc, maintenant, on va s'intéresser au volet plus scientifique de l'histoire. Et là, ça va commencer à se gâter. Alors, c'est le zoologiste Wouter van Hoven, donc sud-africain, qui a publié en premier, qui a relaté en premier cette histoire, en 1984, après avoir étudié justement la mortalité des koudous dans les ranchs sud-africains, pour en déterminer la cause. Donc lui, il met en évidence la hausse de concentration en tanins dans les feuilles et émet l'hypothèse d'une communication entre arbres via l'éthylène comme composé volatile. Donc, mais cette hypothèse, il n'a pas testé et il ne peut pas publier donc ses résultats dans une revue scientifique à comité de lecture.
Est-ce que le comité de lecture va vérifier qu'il y a les preuves suffisantes pour publier la recherche?
Exactement. Donc, le principe, parce que je vais souvent parler de ça ce soir, le comité de lecture dans une revue, c'est un ensemble de pairs, de scientifiques donc, qui travaillent dans un domaine proche ou très proche du sujet de recherche. Et ce n'est pas qu'ils jugent les travaux publiés, mais ils apportent un regard critique. Et ensemble, ils permettent d'améliorer et d'accepter ou non finalement une publication. Donc Van Hoven là, il a finalement publié son histoire dans la publication, dans la revue des parcs nationaux sud-africains. Et cet article aujourd'hui, il est introuvable. On peut pas l'avoir. Il n'existe plus.
Enfin, début du mystère.
On va peut-être aller dans des bibliothèques en Afrique du Sud, je sais pas. En tout cas, il semble pas facile à trouver. Donc, par contre, la même année, lui, il a publié des résultats qui concernent seulement l'inhibition de la digestion par les tanins. Donc, dans une revue scientifique à comité de lecture. Donc, voilà, la recherche avance. Donc, à cette époque, plusieurs auteurs ont émis l'hypothèse d'une communication interplante par composé volatile sans que cela dépasse le stade de l'hypothèse. Mais pourtant, c'est le côté de l'histoire le plus novateur et le plus communicant. C'est celui qui va être repris en direction du grand public. Jean-Marie Pelt diffuse ce récit pour la première fois en France en 1987 dans une série documentaire intitulée « L'aventure des plantes ». Van Hoven, l'auteur à l'origine de l'histoire, il en remet une couche en 1990 au cours d'un colloque international sur l'arbre à Montpellier. Donc évidemment, sa communication au public à ce moment-là impressionne et l'anecdote sur le dialogue entre les arbres est reprise par la presse grand public et la presse scientifique. Donc, mais toujours sans que ce phénomène ait fait l'objet d'un travail scientifique publié dans une revue à comité de lecture.
Oui, parce qu'en fait, donc, on a constaté quelque chose, mais on n'a pas encore pu être sûr que le phénomène venait de telle cause.
Pas du tout, exactement. Donc, désormais, là, tous les travaux qui concernent la communication dans le monde végétal, en fait, mentionnent cette anecdote, que ce soit des travaux scientifiques ou des livres grand public. Mais évidemment, l'origine de ce phénomène et encore moins les références scientifiques correspondantes sont citées puisqu'il n'y en a pas. Bon, en 2014, donc 30 ans après quand même, il y a finalement un biologiste américain qui émet un avis quand même assez critique sur l'histoire. Donc lui souligne l'absence de publication sur ce phénomène de composés volatiles qui servirait pour une communication entre des arbres. Et donc, absence de publication scientifique sur ce phénomène-là. Donc, et lui, il en conclut carrément à l'absence de preuves, évidemment. Alors, bon, voilà, tout ça pour dire que c'est pas si simple quand les choses sont diffusées dans les médias et que les choses ont l'air évidentes. Voici ce qu'on sait aujourd'hui sur ce phénomène, donc par rapport à ce qui est publié dans les revues à comité de lecture. Donc, à propos de la mort des koudous, eh bien, les tanins inhiberaient des enzymes du foie, provoquant ainsi la mort des animaux. Remarquez le conditionnel dans ma phrase, j'ai dit inhiberaient.
Donc, c'est une hypothèse.
Ce qu'on sait, c'est que les animaux ne sont pas morts ni de soif, ni de faim, ni de maladie, ni de parasites. Donc, à propos de la synthèse des tanins par un arbre, donc suite à une agression externe, donc ça a été montré en fait. Ça a été démontré et publié à propos d'une espèce d'acacia, après une attaque par une girafe. Donc, même si cette publication, elle était un peu critiquée parce que le protocole, il a pris en compte que très peu d'armes, en fait, il y a eu un faible échantillon statistique, et surtout que on sait maintenant que sans qu'il y ait d'interaction avec d'autres espèces, notamment des herbivores, et ben la concentration en tanins dans les feuilles, elle est assez variable en fait, selon l'endroit dans l'arbre, selon l'ensoleillement, etc., etc. Donc c'est pas si simple. Et puis concernant la communication interarbre par des composés volatiles, et bien alors là pour le coup on a toujours aucune preuve scientifique du phénomène. On n'en sait rien. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de plus colporter. Alors c'est une idée, c'est une hypothèse, mais le propre de la science, c'est de tester les hypothèses.
Oui.
Donc si on peut conclure, eh bien cette histoire, donc, débarrassée de son élément le plus spectaculaire, mais le plus douteux en termes scientifiques, elle n'en reste pas moins intéressante. Donc trop d'animaux au même endroit peut avoir des conséquences néfastes quand ils se nourrissent de feuilles d'arbres, d'espèces capables d'augmenter leur concentration en tanin en réaction à l'agression. La preuve, ils sont tous morts, et pour les éleveurs, c'est fortement dommageable, donc c'est quelque chose sûrement de bon à savoir. Donc, en tout cas, de notre côté, il ne faut pas céder au côté sensationnel de la science, même si son récit semble réaliste, spectaculaire, innovant, et même quand il est raconté par des personnalités connues et reconnues et qui donnent du crédit finalement à ces choses-là. Donc attention, il faut douter, mais douter de manière scientifique.
Oui, raisonnable et pas justement des choses qui sont appuyées par des faits.
Exactement.
Et des preuves. Ah là là.
Voilà, voilà. Donc c'était un peu... Alors bon, j'avais pour idée de régulièrement dans les chroniques de parler plutôt de communication entre les espèces. C'est un sujet très intéressant. On sait des choses, mais finalement peu de choses. Et c'est un domaine où il y a aussi beaucoup de choses qui se disent, qui sont diffusées dans les médias et qui ne sont pas forcément étayées par des publications scientifiques. Donc, il faut faire attention. Alors, évidemment, c'est à mettre en écho à ce qu'on vit en ce moment et puis à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les théories du complot, etc. Donc, c'est un peu compliqué.
Oui.
Il faut douter, mais douter intelligemment. Et l'absence de preuves ne fait pas preuve, en fait. C'est ça, le truc. Les complotistes, pour les complotistes, quand il n'y a pas de preuve, c'est une preuve, justement. Donc ça c'est complètement aberrant et faux.
Oui, et puis, je pense qu'on aurait pas mal de choses à dire sur le complotisme. Parce que parfois, dans les théories de complot, il y a des idées contradictoires.
Tout à fait,
c'est
oui.
Possible. Enfin, de toute façon, tout est possible.
Parce qu'il n'y a aucune preuve de ces choses-là. Donc, quand l'absence de preuves justifie tous les propos, évidemment, ça part dans tous les sens.
Ouais.
En général, c'est assez simple à démonter. Tout l'argumentaire des complotistes, il est... Bon, ça ne tient pas longtemps la route, en fait, hein, au final. Donc, si on est rationnel et qu'on adopte, une procédure de raisonnement logique et...
Et un minimum et méthodique.
Méthodique, corroborée par des faits, mesurés, etc. Bon, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, la Terre n'est pas plate, hein, il n'y a pas de souci. Hein.
Non, j'ai même vu récemment que les Égyptiens à l'époque antique avaient prouvé et calculé la circonférence de la Terre grâce à l'ombre de leur obélisque.
Tout à fait.
Ouais.
C'est... Bah, complètement, ouais. Oui, mais bon, après, voilà, il faut constamment... Le savoir, c'est quelque chose qui doit être constamment réinventé, donc c'est compliqué. C'est un peu dommage d'avoir à nouveau redémontré toutes ces choses-là alors qu'elles sont établies et acquises depuis très longtemps, quoi.
Ouais, donc faut être curieux, critique quand même. Il y a le travail des journalistes scientifiques aussi qui est important, parce que c'est vrai que des fois on fait des raccourcis parce que comme ça la découverte ou la recherche ou la publication est plus séduisante. Je me souviens, on avait eu un petit peu plus tôt dans l'année, je crois, des titres du type "On a trouvé la vie sur Vénus".
Ouais.
Alors que ouais. Non, c'est "On a trouvé telle molécule qui pourrait peut-être suggérer
exactement,
que la vie exactement. Pourrait avoir". Enfin bref.
Oui, mais ça, c'est pas drôle pour le public.
Bah non.
Alors qu'on a trouvé la vie, bah, ça claque, ça attire l'auditeur. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et puis oui, là, finalement, la science, c'est pas très drôle. Il faut constamment se poser des questions, remettre en cause les résultats, s'interroger sur les résultats publiés. Bon, mais c'est comme ça qu'on avance.
Ouais, non, puis c'est drôle quand même, la science. Bon,
oui.
Bah, Benoît, merci beaucoup. On va presque pas finir en retard l'émission.
Ah, génial.
Le vrai horaire termine dans 30 secondes. Je vais quand même prendre le temps de dire au revoir à tout le monde.
C'est parfait.
Ouais, à dans deux semaines, Benoît, pour la prochaine chronique.
Ça marche, à dans deux semaines.
Et merci à toi. Un grand merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'Oreille Curieuse, que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de la radio, Radio G, à la page de l'émission. On se retrouvera lundi à 18h10 avec Émilie et son croque philo. Et d'ici là, vous pouvez nous écrire, que ce soit par mail ou sur les pages des réseaux sociaux de Radio G. Je vous souhaite une très bonne soirée. La prochaine émission, je te vois, Benoît, qui me fait signe. Je pense que tu fais signe à tous les auditeurs et auditrices. Eh bien, très bonne soirée à toi, Benoît, à tout le monde. La prochaine émission que vous retrouvez sera à 21h et c'est Sons of Blues avec la sélection de Thierry. Et à 22h, ce sera Harvest, plutôt rock and folk. Ouais, on dit ça. Passez à nouveau une bonne soirée, un très bon week-end. Restez curieux et curieuses et amusez-vous.
La minute après, ce qui est écrit se passe. Dis-moi qui pourrait s'y faire. Bien sûr que tout reste en place. Personne pour changer les règles. On voit chez le voisin d'en face ce qu'on n'a pas dans le frigidaire. Et c'est bien ce qui nous perd. Pas vrai? Conscient que rien n'est offert. Comme une retraite en Bermuda, sans rien attendre de nos pères. On se persuade que pour changer son destin, il suffit de faire la guerre pour qu'il n'en reste qu'un. Tout semble rester figé. Chacun reste à sa place, les sujets sont bien maîtrisés. Coincés dans leurs espaces, personne ne connaît la clé. Ceux qu'on traverse à la nage, ils ne le feront jamais à pied. Le temps passe, tout semble rester figé. Chacun reste à sa place, les sujets sont bien maîtrisés. Coincés dans leurs espaces, personne ne connaît la clé. Ceux qu'on traverse à la nage, ils ne le feront jamais à pied. Pendant que ceux qui ont tout vu et qui connaissent tout donnent leurs avis douteux sur des plateaux où ils se connaissent tous, nous invitent à trouver nos places sans piétiner leur pelouse. Il ne s'agit pas de partage mais du Nesbrouf. Reste deux trois Nesbis mais rien de ouf. Juste assez pour qu'on s'enlise, pour bouffer les pissenlits par la racine. On respire pas, on étouffe, on espère qu'on nous écoute jusqu'à voir le dossier classé sans suite. Nulle part où s'enfuir quand les choses deviennent sensibles. On voit la vie en blues avec le moral en dents de scie. Tu cherches à t'évader d'ici, tu peux tomber pour un bout de shit ou sous les talons d'un flic. Ils nous demandent le respect, qu'ils respirent ou prennent la parole, faudrait qu'on se taise. Trop longtemps calibré pour laisser pisser. Le besoin de justice se fait sentir sous les yeux plissés. Le temps passe, tout semble rester figé. Chacun reste à sa place, les sujets sont bien maîtrisés. Coincés dans leurs espaces, personne ne connaît la clé. Ceux qu'on traverse à la nage, ils ne le feront jamais à pied. Le temps passe, tout semble rester figé. Chacun reste à sa place, les sujets sont bien maîtrisés. Coincés dans leurs espaces, personne ne connaît la clé. Ceux qu'on traverse à la nage, ils ne le feront jamais à pied.
Where the gun is kept, 'cause in the night you'll feel fright. And at the sight of a 4/5, I guess you just might wanna do a dance or two, 'cause he could maybe bust you for self or with a crew. No matter if you or your brother's a star, he could pop you in jet without a getaway car. And some might say that he's a dummy, but he's sticking you and taking all of your money. It's a daily operation. He might be loose in the park or lurking at the train station. Mad brothers know his name, so he thinks he got a little fame from the stick-up game. And while we're blaming society, he's at a party with his man. They got the eye and the gold chain that the next man's wearing. It looks big, but they ain't staring, just thinking of a way and when to get the brother. They'll be long gone before the kid recovers. And back around the way, he'll have the chain on his neck, claiming respect just to get a rap. Yeah.
is in a circle, had the kid trapped. The one with the hoodie said will hurt you if you don't run out your dues and pay. Give up the Rolex watch or you won't see another day. See, they were on the attack, and one said, yo, you wanna make this to a homicide rap? Make it fast so we can be on our way. Kick in the rings and everything, okay? The kid was nervous and flinching, and little shorty with the 3-8, yo, he was inching. Closer and closer, put the gun to his head. Shorty was down to catch a body instead. Money was scared, so he panicked. Took off his link and his rings and ran frantic. But shorty said, nah, pull the trigger and step. It was nothing. He did it just to get a rap. Bigger. Now he's known for his trigger finger, rolling with troops of his sons like a gangster figure. He's near the peak of his crazy career. His posse's a nightmare, Mac and jewels and crazy gear. But as we know, the things we do come back. And shorty's not peeping, others are scheming to counteract. Cause a kid that got shot didn't perish, so he pulls up in the Jeep with tinted windows. Too late, shorty was caught in the mix. His time ran out, his number came up, and that's it. You know the rest, so don't front, the plan has been upset. Some brothers gotta go out just to get a rep.
Ma vie en karting sans rétro, j'accélère à pleine vitesse. Tous ces focus sont derrière, je les entends plus, je suis sur scène. Petit dans le caddie, avec maman, je pensais déjà au billet. Donc je me focus sur mon zay, ma tune sur la quadruple. Ouais, la la, la 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 la, c'est fini, je suis sûr de moi, ils pourront pas m'arrêter. Non, 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 la la, la 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 la, mes ennemis, je les encourage, avec ma folie qui m'inquiète. Je me la joue instable mais je suis loin d'être paumé. J'ai des airs de star avec ta frangine. Elle est venue me voir à la fin de mon concert. Pour une photo de moi avec toutes ses copines. Je suis pas venu pour les flashs, je suis pas venu pour les haters. C'est pas dur de garder son calme avec des trucs et des players. Je suis ma vie et je reste droit, j'ai mes amis pour me repérer. J'écoute pas tes fausses histoires, moi je l'écris, toi tu la répètes. Je suis toujours prêt, on garde le contrôle poteau. On a une étiquette, t'as une étiquette. Pensez. T'aimes bien parler mais tu fais pas grand chose. Bolo, je te vois tu gaspilles ta salive pour heure. Ma vie en karting sans rétro, j'accélère à pleine vitesse. Tous ces focus sont derrière, je les entends plus, je suis sur scène. Petit dans le caddie, avec maman, je pensais déjà au billet. Donc je me focus sur mon zay, ma tune show la quadruple. Ouais, la la, la 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 la, c'est fini, je suis sûr de moi, ils pourront pas m'arrêter. Non non non, la la, la 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 la, mes ennemis je les encourage, avec ma folie qui m'inquiète. J'suis dans mon truc, tout se passe bien mon frère. On fait la diff à chaque fois qu'on monte sur le stage. Plus de plan cul, j'me pose, j'deviens ça à l'ancienne. J'pensais avec ma bite quand j'en avais 17. Les disquettes et les discours, j'faisais genre tout était cool. J'voulais juste tremper mon bout et le lendemain partir en douce. J'm'en excuse, j'ai fait le fou, des caprices en haut de la tour. C'est fini, j'fais plus la cour, moi je trace sans aller-retour. Mais maintenant que j'avance, on me pose trop de questions. Ça regarde pas dans les yeux, dans mon dos ça parle sur nous. J'suis un monstre, je viens danger, je te donnerai pas de réponse. Si tu cherches à tout savoir, c'est que t'as rien compris du tout. Ma vie en karting sans rétro, j'accélère à pleine vitesse. Tous ces focus sont derrière, je les entends plus, je suis sur scène. Petit dans le caddie, avec maman, je pensais déjà au billet. Donc je me focus sur mon zay, ma tune show la quadruple. Ouais, ouais, la la, la 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 la, c'est fini, je suis sûr de moi, ils pourront pas m'arrêter. Non, 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 la la, la 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 la, mes ennemis, je les encourage, avec ma folie qui m'inquiète.
Radio G 101.5 FM.